Bonjour, c'est Romain Bédoux. Bienvenue dans 100% PSG, la tribune, le podcast débat de France Bleu Paris, épisode 34 de cette saison 2023-2024. Un épisode qui sera, on l'espère, les prémices d'une très belle semaine pour le Paris Saint-Germain. C'est facile, demain, on peut écrire l'histoire. Jamais en Ligue des Champions, un club français ne s'est qualifié en ayant perdu le match aller. Bah pour là aussi, c'est facile, il suffit de gagner le match pour le Paris Saint-Germain. Et oui, merci la règle du but à l'extérieur. J'avoue, j'étais sceptique au début quand ils l'ont supprimé en tant que fan de foot, mais force est de constater que ça nous arrange bien. Demain, il suffit de gagner pour se qualifier, pour espérer au moins la prolongation, alors qu'avant, avec une défaite 3-2, bah, c'était beaucoup plus compliqué. Ça libère d'une certaine pression. Pas de calcul, il faut simplement gagner un match. Voilà, ça paraît facile quand on pose les mots. Vous allez voir que c'est un tantinet plus compliqué dans les débats qu'on va aborder. On va essayer de voir justement ce qu'il faudra faire pour se qualifier et retrouver les demi-finales de la Ligue des Champions. Les explications, c'est dans 100% PSG La Tribune. C'est parti.
100% PSG La Tribune.
Au programme de la tribune, pas de match ce week-end, donc pas de j'aime pas traditionnel. On sera full focus sur la préparation de la rencontre face à Barcelone. On aura d'ailleurs en ligne dans quelques instants la journaliste Ana Caro, spécialiste du foot espagnol, pour prendre la température de l'état d'esprit catalan à la veille de la rencontre. Mais nous, on va se faire une grande preview de ce match au stade de Luis Companys, le stade olympique de Barcelone. Que faut-il changer entre le match aller et le match retour? Est-ce que le problème il était tactique ou mental? Quel sera pour vous le facteur X de la rencontre? Qui va changer cette rencontre retour? Quel 11 alignerez-vous si vous étiez Luis Enrique? On va tous être coach. Et puis on va se faire une petite séquence prono, parce que se mouiller, c'est réellement révéler sa pensée pour moi. On parle, mais quand on donne un pronostic, là au moins on est sûr que ça peut bien se passer et que c'est ce qu'on pense. Tout ça dans la bonne humeur, c'est peut-être la dernière émission feel good et européenne de la saison, donc autant en profiter. Tout de suite, la présentation de l'équipe.
100% PSG, la tribune.
Qui compose la tribune aujourd'hui? Quels sont nos débatteurs? Mathieu Faure de Nice Matin et SoFoot. Salut Mathieu.
Salut tout le monde.
Comment ça va?
Bah très bien, hein. Il fait beau, je suis en Bermuda et en chemisette.
Ah, c'est
tout
beau.
Baigne.
C'est beau. Mais toi, c'est la normalité. Nous, ça nous arrive de temps en temps à Paris. Ça nous arrivait la semaine dernière. Toi, c'est la normalité en fait.
Bah, En fait, je fais pas de changement fringues d'hiver, fringues d'été. J'ai les mêmes fringues tout le temps.
C'est pratique pour les armoires. Avec nous autour de la table, le retour de Julie Yalap, journaliste pour Squeak, RMC, Bein Sport, Canal+. Elle est partout.
Salut Julie. Salut, je suis ravie d'être là avec vous de nouveau.
Ça va bien?
Très très bien.
Ouais, t'es prête?
Je suis prête.
T'as
hâte?
T'as hâte?
J'ai pas forcément hâte, mais je suis prête.
Ouais, ça va être bien. Et enfin, le coach. Yacine Amened est avec nous, Paris United, Club des 5. Salut Yacine.
Salut à tous.
Comment ça va?
Ça va. Pour l'instant, ça va.
Toi aussi, t'as hâte? Toi aussi, t'es prêt?
Ouais, vraiment.
Alors, avant qu'on aille prendre le pouls de ce qui se passe du côté de Barcelone avec Ana Caro qui va nous rejoindre dans quelques instants, juste petit tour de table. Vous sentez comment, là, à 24 heures, 36 heures peut-être, un peu moins, de la rencontre, Yacine?
Moi, pressé. Mais je sais pas, en fait, si je me sens bien ou si j'ai envie de me sentir bien. Ou si j'en ai marre d'être déçu et je me dis qu'on verra bien. Donc je sais plus dans quel état je suis.
Julie, tu te sens comment?
Ben, moi, je m'étais dit cette saison que j'attendais rien de particulier du PSG en Ligue des Champions cette saison. Donc je suis plutôt sereine. Je n'ai pas forcément hâte. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais voilà. J'attends. Je suis prête en tout cas.
Mathieu, tu comptes les minutes, tu comptes les heures. T'es comment là, toi?
Bah en fait, j'ai arrêté de calquer mon rythme cardiaque sur les attentes que j'ai de ce club, parce que sinon je vais pas vivre très vieux. Donc j'ai appris à être zen et de rien attendre, comme ça je peux pas être déçu. Et parce que moi je suis pas forcément un éternel optimiste, donc dans ma tête je suis plutôt parti sur comment je vais digérer cet énième fiasco.
Le grand
classique. Au moins t'es pas déçu, mais c'est peut-être la seule méthode qui puisse marcher, hein.
Voilà, comme ça demain je peux que être agréablement surpris, donc au moins je me dis la soirée elle peut que bien se passer, parce que si ça se passe comme je m'y attends, bah j'ai l'habitude, je sais faire. Et par contre c'est plutôt si on se qualifie à l'extérieur avec en éliminant un club avec lequel on a quand même pas mal d'antagonisme, me dis, bah, ça, je ne sais pas trop faire, et du coup, ça, je serais heureux de le découvrir.
Bon, remarque, c'est une méthode, hein. Ça peut marcher, ça peut marcher. Bon, ça vous dit qu'on s'intéresse un peu à l'adversaire un petit peu?
Non.
Avant de faire les débats sur le PSG. On est en ligne avec Anna Caro, journaliste spécialiste du foot espagnol. Salut Anna.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Ouais, impeccable. Alors, avec toi, on va prendre des nouvelles du Barça. Le Barça qui, contrairement à Paris, a joué ce week-end. Ça s'est passé comment pour le Barça?
Ah, c'était vraiment un match pour faire jouer les remplaçants, parce qu'il y avait très peu de joueurs qui ont joué face à Paris. Il y avait seulement Ter Stegen et Pau Cubarsí qui ont été titulaires contre Cadiz. Donc, petite victoire 1-0. Un match plutôt maîtrisé pour le Barça, avec un but, très beau but d'ailleurs, de Joao Félix.
Et il a mis une retournée, c'est ça?
Tout à fait. Et c'est plutôt Joao Félix qui sort gagnant de ce match que le Barça, même si évidemment une victoire 1-0 quand on veut chercher le titre, c'est plutôt pas mal. Mais parce que lui, il a été vraiment très performant et que il lui aussi prétend une place potentiellement de titulaire contre le PSG, même si, vu le match aller de Rafinha par exemple, ça va être difficile de le retirer du 11.
Bon, c'est vrai que Yacine, si on fait juste un petit aparté là-dessus, il n'y a pas de match pour le Paris Saint-Germain, il y en a eu un pour le Barça, ça peut jouer ou pas pour toi dans la rencontre de mardi là?
Moi, je suis toujours partisan d'enchaîner les matchs parce que j'aime pas quand il y a des semaines vides et les joueurs non plus en général. Après là, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a que 6 jours, parce que le match allait marrer mercredi, là, le retour mardi. Ça peut se comprendre, mais voilà. Après, on voit bien le Barça a fait beaucoup tourner. Donc, est-ce que finalement, c'est pas le même résultat? Les 11 qui vont démarrer, ils sont un peu dans la même situation que les Parisiens.
Et nous, Julie, si on avait fait un match et qu'on avait fait la même équipe contre Clermont la semaine d'avant, je sais pas si on aurait eu beaucoup d'enseignements non plus.
Hein. Bah, c'est ça. Et surtout qu'il me semble qu'avant le match aller, le Barça avait pas joué pendant quoi? 10 jours?
10 jours. Ouais.
10 jours. Donc là, les rôles sont inversés. Moi, je pense que même s'il n'y a pas eu de match ce week-end, finalement, ce n'est pas en une semaine qu'on peut perdre le rythme. Et puis finalement, il a peut-être, Monsieur Luis Enrique, a tenté d'autres trucs. On ne sait pas.
Alors Anna, on regarde un petit peu la presse catalane, notamment Sport, ce matin, qui commence à donner des petites prémices de composition d'équipe. Il y a une info qui ressort, c'est peut-être quand même le retour de Pedri, tu vas me dire si je me trompe, mais Pedri qui pourrait débuter demain.
Oui, Pedri va très certainement être titulaire, d'autant que Sergio Roberto et Christensen, qui jouent sinon au milieu, sont suspendus, et que Fermín López a fait un match très intéressant contre Cadiz, mais qui reste encore assez jeune, et enfin assez inexpérimenté. Sport dit que Pedri va être titulaire, mais en plus Pedri va être titulaire avec un rôle très particulier. Il va être un peu le médiateur de cette équipe, celui qui va être chargé de donner tous les ballons avec... pour asseoir une belle défense côté Barça, des Gundogan et Frankie de Jong qui vont être beaucoup plus bas pour laisser champ libre à Pedri. Donc grosse responsabilité pour lui parce que finalement il a joué qu'une demi-heure ce week-end contre Cadiz, après la demi-heure qu'il a joué contre le PSG, donc il manque peut-être un peu de rythme et ça va être une grosse, un très très gros match pour lui en tout cas.
Mathieu, si, quand on voit la rentrée que Pedri nous a fait la semaine dernière, se dire qu'il va être responsabilisé, mis dans les meilleures conditions pour pouvoir faire le jeu, etc., c'est pas forcément super rassurant.
Bah là, en plus, on n'a pas de chance, entre guillemets, c'est que je crois qu'ils avaient 8 joueurs sous le coup d'un carton jaune et qu'ils pouvaient manquer le match retour. Et en gros, les deux qui manquent, c'est les moins forts intrinsèquement dans la liste. Donc au final, tu perds Sergio Roberto pour Pedri, même s'il est moins en forme. Mais quand tu vois la demi-heure qu'il fait à l'aller, puis la passe qu'il envoie à Rafinha... Est-ce que tu gagnes forcément au change? Moi, j'ai été agréablement surpris par leur match. Après, moi, je ne vais pas te mentir, c'est une équipe pour laquelle j'ai très peu d'estime et que je regarde très peu. Mais tu vois, on les disait un peu en fin de cycle. On avait vu les vidéos gags contre Villarreal. Et puis peut-être que le départ annoncé de Ravi les a un peu relancés. Mais j'ai trouvé vraiment une équipe extrêmement cohérente, talentueuse. Capable de faire rentrer des mecs comme Joao Félix, Pedri, avec des jeunes qui sont déjà en forme. Enfin, j'ai vraiment, même si on a eu des moments positifs, j'ai trouvé que c'est une équipe vraiment cohérente et presque surprenante dans le sens positif du terme. Donc, j'arrive pas à me projeter sur demain en me disant est-ce qu'on est capable de faire mieux, parce que j'ai même l'impression qu'on est capable de faire pire, mais voilà, est-ce qu'on va être capable de les gêner, parce que je trouvais que c'était vraiment une belle équipe collective, quoi.
Anna, c'est quoi l'ambiance autour de Barcelone? Est-ce que le match là de mercredi, le match aller, a fait autant de bien qu'on ne le pense au FC Barcelone et à tout l'écosystème Barça?
Totalement, oui, ça a énormément rassuré beaucoup de monde, à commencer par Xavi, parce qu'il savait que c'était quand même l'épreuve du feu pour lui, même s'il a déjà annoncé son départ. Depuis justement qu'il a annoncé son départ, ils ont gagné tous les rematchs, le Barça. Et puis lui, là, après le match contre Cadiz, a dit, entre guillemets, on affronte le PSG, enfin ce match retour contre le PSG, au meilleur moment pour nous, parce que enfin le Barça a trouvé des solutions à ses grosses lacunes défensives. C'est grâce en partie à Pau Cubarsí, à Jules Koundé qui revient à son meilleur niveau. Mais c'est beaucoup de choses qui sont très rassurantes côté du Barça. Et puis il y a un vent d'optimisme, on va dire, plutôt, parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce que le Barça fasse un tel résultat au Parc des Princes. Parce que bah, ça reste une équipe qui est très jeune, il y a beaucoup de joueurs qui découvrent la Ligue des Champions, et finalement ils reviennent avec une victoire, et puis il y a tous ces stats du coup, qui sont plutôt négatifs pour le PSG, et qui n'a jamais réussi à revenir après avoir perdu le match aller à domicile, qui sont ressortis, et si on regarde la presse catalane, elle est plutôt positive, et il y a assez peu de critiques qui sont formulées contre le Barça, et ce qui est quand même très très rare, hein, parce qu'on est sur un entourage autour du club qui est pas très sain.
Qui est plutôt ouais, un peu. Bon, on connaît ça un peu à Paris, hein, aussi, hein, d'avoir tout ce qu'il y a autour qui commence un petit peu à gangréner et qui peut gangréner l'équipe première. C'est vrai, Yacine, que. Alors, je suis assez parisien pour remarquer les effets de communication et les effets de langage qu'il peut avoir, mais j'ai l'impression depuis mercredi que tout ce qu'il y a autour du Barça, c'est « Regardez, on a chassé nos vieux démons, ça y est, les traumatismes, c'est fini ». C'est quoi? C'est une méthode Coué, à ton avis, ou il le pense vraiment?
Non, je pense qu'il le pense vraiment, parce qu'il y a eu la première partie de saison qui n'était pas terrible, et finalement, depuis l'annonce de Xavi, comme quoi... quand les coachs annoncent leur départ, c'est pas toujours négatif. Ça va mieux. Et je pense que ce match-là, il a un peu validé justement cette bonne période. Donc, ça ajoute à la positivité qu'il y a autour de l'équipe. Maintenant, peut-être que c'est bien aussi qu'ils s'enflamment et qu'ils se disent que c'est pratiquement joué.
Alors, Xavi, il a quand même dit que le favori, ça restait le Paris Saint-Germain. Ouais, il a dit ça après le match aller. Et il a dit qu'il promettait la guerre un peu. Il promet la guerre pour le match de mardi. Anna, pour terminer, tu penses aussi que je parle vraiment de l'écosystème, la presse catalane, etc. Tu penses que c'est essayer de chasser les vieux démons et dire, bon, bah voilà, on a fait un grand match en Ligue des Champions, donc ça y est, tout ce qu'on a eu comme traumatisme, c'est mis de côté? Ou tu penses qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe?
Ah, sur les traumatismes, non, ils sont vraiment pas mis de côté. Après, il y a beaucoup d'espoir avec la nouvelle génération de se dire qu'eux, entre guillemets, sont pas des traumatisés des remontadas, hein, qu'a pu subir aussi le Barça. Donc c'est rappelé, hein, parfois, si on prend un article justement qui faisait état du fait que le PSG n'était jamais revenu, dedans il n'est pas oublié de mentionner que la dernière compétition du Barça, c'est une remontada contre Liverpool, donc il y a quand même tout ce passé derrière, mais on sent une volonté, que ce soit, enfin, surtout de la part des supporters et de la part de la presse, de se montrer très positif, parce que il y avait pas vraiment d'éléments sur lesquels être négatif sur le match aller et sur les récentes performances du Barça. Mais c'est vrai que, par contre, si on prend les discours des joueurs ou de Xavi, on est quand même beaucoup plus prudent que ce que peut montrer la presse catalane. Je pense que c'est surtout une façon aussi de montrer que, bon, le Barça aussi peut s'enflammer sur des affiches de Coupe d'Europe, parce que ça fait vraiment longtemps, pour le coup, que c'est pas arrivé. Et que quand on est constamment en rivalité avec le Real Madrid, bah, ça fait du bien de rappeler aussi que le Barça est capable de jouer des demi-finales européennes, enfin de rêver en tout cas de demi-finales européennes, et avec une équipe plutôt sympathique à suivre.
Ouais. On vous rappelle, hein, que le Barça, donc c'est les deux dernières années, c'était élimination en poule. Avant 2021, c'était le Paris Saint-Germain en huitième de finale. 2020, c'est le 8-2 face au Bayern en quart de finale. 2019, c'était Liverpool. 2018, c'était la Roma. Donc en fait, vraiment, il y a eu des traumas. Nous, on en a à Paris, mais il y en a eu aussi du côté de Barcelone. Merci Anna. Anna Caro, journaliste spécialiste du football espagnol. Merci pour ton expertise. Bon match à toi.
Oui, merci à vous. Bon match à vous aussi.
Allez, merci. Nous, on va continuer nos débats. On va prendre notre premier débat entre Parisiens. Hein. On veut pas à Anna. Le premier, il est plutôt sur les axes d'amélioration. Je vais commencer par toi, Julie. À ton avis, entre l'aller et le retour, Qu'est-ce qu'il faut changer ? Est-ce que ça a été un problème tactique ? Est-ce que ça a été un problème mental ? Comment t'as vu ça ?
Alors moi déjà, ce qui me rassure, c'est que j'ai pas eu l'impression que c'était un problème mental. Je pense que les déficiences, elles ont été vraiment sur le terrain, sur le système qui, en première période, convenait pas clairement à l'équipe. Et surtout, les défaillances, elles ont été défensives. Donc à partir du moment où on arrive à régler ces soucis défensifs, je pense que le match retour, ça peut être totalement différent, notamment avec Beraldo qui était clairement pas à sa place, peut-être trop jeune, qui s'est fait bouger par Lewandowski, qui a laissé beaucoup d'espace, et Donnarumma évidemment qui je pense a fait le pire match de sa saison au plus mauvais moment. Est-ce que Donnarumma peut faire un deuxième match aussi catastrophique de suite? J'ai pas envie de me mettre. J'ai assez confiance en lui pour me dire qu'il saura rectifier le tir. Je pense que les défaillances, elles ont été vraiment défensives. Si on arrive à régler ça en changeant notamment cette charnière centrale, je pense que ça pourrait déjà aller mieux, être un peu plus serein derrière. Et puis après, bah, devant, évidemment, faut que les mecs de devant soient plus efficaces, qu'ils se trouvent plus facilement. Mais pour moi, le premier chantier, c'est vraiment défensif.
Mathieu, d'un point de vue collectif, si je ne te demande pas de m'intervertir juste des joueurs et d'enlever un pour en mettre un autre, d'un point de vue collectif, qu'est-ce qu'il faut changer pour toi par rapport à ce qu'on a vu mercredi ?
Bah, la concentration, tu vois, de tous les instants, parce que comme l'a dit Julie, tu les trois buts, quasiment, tu les donnes en fait. Et ça, dans un quart de finale de Ligue des Champions, tu peux pas te le permettre, quoi. C'est franchement, tu peux. Les trois buts, ils sont évitables. À partir de là, il faut vraiment que tu sois concentré plus d'entrée très vite. On a été capable en plus de renverser la vapeur en 5 minutes, et j'avais le sentiment qu'on avait repris le cours du match, que tout allait bien. Et puis il y a cette connerie sur le 2-2, et puis derrière, en fait. À partir du moment où il y a l'égalisation, j'ai l'impression qu'on n'a jamais rallumé la lumière et qu'on était vraiment groggy. Et ça, c'est dit, tu ne peux pas te le permettre en Ligue des Champions. Donc là, en plus, tu vas être dans un match où, en gros, le score au coup d'envoi, bah, il qualifie le Barça. Donc tu ne vas pas trop avoir le temps d'attendre. Il faut que tu ailles à l'abordage. Donc il faut que tu sois efficace dans les deux surfaces. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très rarement, et encore plus à l'extérieur, encore plus dans un match à élimination directe. Donc en gros, limite, faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait de notre vie, quoi.
C'est pas super rassurant de dire ça. Tu feras gaffe, ça énerve le chien en plus, si tu dis ce que tu es en train de dire. Yacine, c'est tactiquement, on a dit que Luis Enrique s'était peut-être trompé sur certaines sur l'approche, en tout cas, il a modifié aussi à la mi-temps. Mais c'est tactiquement, ou c'est aussi dans les intentions que les joueurs ont mis que ça a pêché?
Ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup dans les intentions, ou en tout cas dans l'attitude, sur beaucoup trop d'actions. On a manqué d'agressivité. Je trouve que le Barça a eu trop de possibilités en fait de jouer vers l'avant et de nous mettre en difficulté. Je pense qu'il y a une partie tactique malgré tout, parce que notamment sur la première mi-temps, quand on voit Asensio qui est obligé à un moment donné d'aller défendre côté gauche, donc il est plus dans l'axe, que Lee, on sait pas trop si c'est lui qui doit venir un peu défendre dans l'axe, et il y a eu notamment sur le but où Lewandowski est trouvé au milieu et qui décale, il y a mal. En fait, le problème, c'est que qui devait compenser ces déplacements-là, et je crois qu'on l'a en première mi-temps, on l'a pas trouvé, parce que Paris a eu beaucoup le ballon, mais je crois que le Barça avait décidé aussi de laisser le ballon à Paris et de partir de plus bas. Et ce manque d'agressivité, c'est ce qui permet au Barça de trouver ses passes profondes. Il y a ensuite, évidemment, alors Beraldo, le problème, c'est que, oui, évidemment qu'il était pas prêt, mais je trouve qu'il y a quand même des consignes. Et on avait l'impression que la consigne, c'était de suivre Lewandowski. Et en fait, il s'est fait aspirer à chaque fois. Alors, est-ce que c'est de sa faute? Ou est-ce qu'il a trop respecté les consignes? J'ai regardé le match trois fois pratiquement. Et en fait.
T'es un fou furieux. Ouais, j'ai vu deux fois, ça m'a déprimé.
J'essaie de comprendre des choses. Et je pense qu'il a été trop respectueux des consignes, parce qu'à un moment donné, il ne doit pas suivre forcément Lewandowski qui décroche. Il doit le laisser à un milieu. Voilà. Donc, il y a eu des petites choses comme ça. Le point positif, par contre, c'est que dans l'attitude, les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, elles sont vraiment bonnes. Paris met de la vitesse quand il a le ballon, mais Paris met de l'agressivité pour récupérer le ballon. Et surtout, il met de l'intensité au moment où il récupère le ballon dans ses transmissions. Et c'est ça qui fait la différence, parce qu'en première mi-temps, Paris a beaucoup le ballon. Mais finalement, il n'y a pas de vitesse dans ce qui se passe. Et c'est très lent, il y a trop de touches de balle, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de course à vide. Donc c'est ce qu'il a manqué, c'est ce qui se passe comme par hasard sur le début de deuxième mi-temps, et notamment ses courses avec Vitinha qui est trouvé dans la profondeur. En fait, quand une équipe elle joue bloc bas, il faut ces courses-là, et on les a pas assez faites. Et moi, je pense que c'est une des clés, il va falloir courir. Et si les joueurs doivent être cramés à la 65e, bah, il y a un banc. Mais moi, j'en ai marre, en fait, des joueurs qui s'économisent. Tu sais, on a l'impression que, ouais, j'ai 90 minutes à faire, donc je vais pas. Elle fait les courses. Puis si t'es cramé à la 60e, t'es cramé à la 60e, et puis on fera rentrer d'autres joueurs.
Ouais, c'est, il y a encore les stats de courses qui sont sorties. Hein. Le Paris Saint-Germain est encore en dessous. On en parle beaucoup moins cette année. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on parle beaucoup moins des courses. Cette année. Maintenant qu'il y a plus Messi et Neymar, on parle beaucoup moins des courses. Mais le fait est que le PSG a couru quasiment 8 km de moins que le Barça sur la rencontre. Alors ça s'explique parce que le PSG avait moins le ballon que le Barça, avec plus le ballon, pardon, que le Barça. Donc le Barça a plus couru. Mais 8 km, c'est quasiment un jour en plus. Hein. Donc c'est un peu là-dessus. T'as senti, est-ce que tu l'as senti, toi aussi, Julie, que bah, dans certaines intentions, ça n'allait pas au fond des gestes, etc. Et donc, ça a amené à la suite.
Bah oui, forcément. Après, moi, je vais parler de Mbappé parce que ça a été celui que tout le monde a remarqué. C'est vrai que dans les intentions, on l'a senti pas forcément impliqué, pas forcément concerné, pas forcément là aussi. Et bah, à partir du moment où ton meilleur joueur, enfin supposé ton meilleur joueur n'est pas dedans et qui montre ce qu'il a montré au match aller, est-ce que ça n'influe pas aussi sur les autres? J'irais peut-être pas jusque-là, mais c'est un peu le symbole du manque d'implication sur le match aller. Et moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment sur un quart de finale aller de Ligue des Champions où tu pars favori parce que tu es à domicile, parce que le Barça depuis le début de la saison, c'est un peu les montagnes russes, même si c'est meilleur depuis quelques semaines. Comment tu peux montrer un tel visage, surtout quand tu prétends être le meilleur joueur du monde? J'avoue que sur l'implication, Mbappé, pour moi, c'est symptomatique de ce qui s'est passé après autour. Ça a manqué d'implication, évidemment. Après, je ne pense pas que ce soit un problème mental. Qu'est-ce qu'il a manqué? Je ne sais pas, mais je ne pense pas que c'était encore le passé de Paris en Ligue des Champions où on se liquéfie parce qu'on entend la petite musique au début du match. Je pense que c'est vraiment un manque d'implication. Après, à quoi c'est dû? J'avoue que je ne peux pas trop l'expliquer, mais oui, oui, effectivement, ça s'est senti et c'est d'autant plus dommageable que c'était à domicile.
Bon, là, les attitudes, ça ne veut plus rien dire puisque Beraldo, il fait son grand sourire de joker et pourtant il sort cette prestation de la même manière.
Mais lui, il a moins d'expérience. À la limite, j'ai même envie de lui trouver un peu plus de circonstances atténuantes. C'est un enfant, il est là, il est heureux d'être là. Bon, après, il lui manque un petit peu. Mais Mbappé, il a quand même combien de matchs de Ligue des Champions?
Mathieu, dans l'attitude, tu retiens quoi? Tu retiens ce qu'on a peut-être vu en première période, qui était donc pas assez peut-être d'envie, ou tu retiens ce premier quart d'heure de seconde période dans lequel on en met deux rapidement et donc en fait on fait ce qu'on doit faire là sur les 90 prochaines minutes. On l'a déjà fait sur un quart d'heure, donc on se dit que ça peut être un peu mieux quoi.
Bah, j'ai pas envie de me foutre l'air tout de suite, donc on va essayer de voir le verre à moitié plein. Et c'est vrai que, comme l'a dit Yacine, le retour des vestiaires, en plus avec des changements assez importants, et puis de façon qui s'imposaient, vu la première mi-temps presque à contresens, tu avais le sentiment que on était capable de faire ça et que c'était. J'ai pas l'impression qu'on surjouait en plus, que c'était des séquences assez simples qu'on sait faire, qu'on sait multiplier. Et peut-être que le fait de retourner trop vite la situation, on est retourné dans une forme de confort en disant c'est bon, on leur a mis un coup de bambou derrière la tête, ils sont assommés, on a repris le match, on va redescendre en tempo, essayer de contrôler un peu plus. Sauf que contre le cours du jeu, tu redonnes un peu le bâton pour te faire battre, et c'est dommage. Mais c'est sûr qu'il faut être conquérant, et puis il faut partir du principe que c'est peut-être ton dernier match européen, donc faut pas avoir de regrets en fait. Et j'ai le sentiment que la plupart de nos éliminations, il y a tout le temps une sorte de regret. Tu vois, on n'a jamais testé jusqu'au bout, on a baissé les bras trop vite. Il faut prendre des risques, on n'a pas le choix, quitte à se découvrir ou quitte à tenter des choses un peu risquées. Mais il faut du panache, quoi. Il faut y aller à l'abordage, il faut leur faire mal. Et c'est pas en ronronnant qu'on va leur faire mal, en fait, parce qu'eux, ils vont rien nous donner, en fait.
Bon, ça, c'était pour l'aspect collectif. Vous savez que l'aspect collectif est toujours devant l'aspect individuel. Mais on va quand même parler de quelques individualités. On va faire une petite pause et on revient pour la suite des débats dans 100% PSG La Tribune.
Vivez une saison 100% PSG sur France Bleu Paris.
Après la défaite très décevante au Parc des Princes 3-2, le Paris Saint-Germain va jouer son avenir européen en Catalogne, au stade de Montjuïc, oui, où se jouera ce Barça-PSG à vivre ce mardi de 20h à minuit sur France Bleu Paris. On y croit à la qualif.
France Bleu Paris, 100% supporter.
100% PSG, La Tribune.
De retour dans la tribune avec Mathieu Faure, Julie Yalap et Yacine Amened. Cette petite pub là, ça nous fait parler de tout le dispositif de France Bleu Paris. Il y a bien sûr la grande soirée de 20h à minuit en direct sur France Bleu Paris. Et puis il y a aussi l'émission de Pierre Clément qui devient 200% PSG de 18h à 20h. Ça fait un avant-match. Et donc en fait, mine de rien, le PSG, c'est de 18h à minuit demain. C'est quand même cool, c'est quand même plutôt pas mal, c'est quand même bien. Donc voilà, donc ça c'est le dispo de France Bleu Paris, ce sera à suivre bien sûr sur notre antenne. On a parlé de collectif, maintenant on va s'intéresser aux individualités et notamment au facteur X potentiel pour demain. Si on se penche sur quelques cas individuels, Yacine, pour toi, qui peut être le facteur X, celui qui va changer la double confrontation côté Paris Saint-Germain?
Si je prends par rapport au match aller, moi je pense que c'est Zaïre Emery, parce que il a clairement manqué au milieu et notamment là, quand il rentre, on le voit tout de suite dans ses courses, dans l'impact qu'il amène. Enfin, le PSG a eu un visage différent, alors pas forcément sur les 45 minutes, mais en tout cas il a été impactant. Ça peut être lui qui apporte cette dynamique au milieu, parce que je trouve que dans les deux sens, avec ballon et sans ballon, parce que je trouve que le Barça a eu trop de confort à jouer quand ils ont eu le ballon. Mais nous, on a eu aussi beaucoup de mal à percuter parce que Lee, c'est pas un joueur de percussion, parce qu'Asensio non plus. Donc quand il décrochait, il manquait ça. Maintenant, si y en avait un autre, ce serait et j'espère qu'il jouera, Gonzalo Ramos, parce qu'il a manqué de présence devant, en fait. Il y a des situations, et même en première mi-temps, où t'es un peu moins bien, où il y a finalement des possibilités, des situations de centre, mais où t'as personne dans la surface.
Il manque un mec bien sûr. Qui se pose là, quoi.
Ben oui.
Bonjour, moi c'est le but.
Et vous voilà, êtes gentil. C'est ça. Et pour deux raisons. La première, c'est évidemment d'être présent dans la surface pour terminer, mais c'est aussi de fixer la défense et de permettre aux autres de venir occuper les espaces, parce que là, les deux défenseurs, finalement, ils avaient jamais personne à gérer, et ils ont pu défendre plutôt dans un confort, surtout la première mi-temps, c'était flagrant.
Et donc tu te retrouvais avec Araujo et Koundé qui étaient sur Mbappé,
voilà,
et Koubarsi plus Cancelo qui était plus sur Dembélé.
Bah oui, parce que du coup, voilà, et si t'as Ramos déjà, c'est obligé qu'il y en a un qui va pas pouvoir, enfin il y en a un des deux qui va pas aller faire le doublon sur le côté. Ouais. Donc,
Julie, pour toi, qui peut être le facteur X demain?
Alors pour moi, c'est Achraf Hakimi qui était suspendu donc la semaine dernière. Alors pour deux raisons, déjà défensivement parce qu'il permettrait d'avoir une autre charnière centrale, et du coup finalement, même s'il est un peu en dedans ces dernières semaines, c'est quand même quelqu'un qui fait le boulot, même défensivement et surtout offensivement. Sa relation avec Dembélé, je pense que ça peut faire très mal au Barça. Ils se trouvent bien, ils sont complices, donc avec Dembélé qui du coup a fait un très bon match aller, le pauvre, enfin c'est bien pour lui, hein, mais qui a fait un très bon match aller. Je pense que si en plus il est dans de bonnes dispositions avec Hakimi, avec qui il s'entend bien, qui le sert parfaitement et qu'il arrive du coup à faire mal à la défense barcelonaise, je pense que Hakimi, pour le coup, j'espère qu'il sera dans le 11, je pense.
Normalement, oui.
Voilà.
Bon, après, on sait jamais, c'est du Luis Enrique.
Voilà.
Hein, mais normalement.
Mais Hakimi, je pense que pour moi, c'est le facteur X essentiel sur ce match retour. Et après, si je peux en ajouter un, c'est juste retrouver le Didio qu'on a vu depuis le début de la saison.
C'est bien parce que j'aurais demandé un facteur X.
Oui, mais on n'a pas fait de j'aime
deux
pas.
Chacun, on en fait deux chacun, ce qui fait qu'on va avoir le 11 en fait qui va décider. Le 11 est un facteur X.
Non, juste cool. que Didio retrouve sa forme depuis le début de la saison finalement, parce que là, il passe vraiment à côté au match aller. Et si on retrouve un Didio à 70-80%, je pense que même si on en prend un, je pense que sur le match retour, avec lui en forme, ça peut aussi faire la différence.
Alors j'ai plusieurs questions sur vos facteurs X. Juste demande celui de Mathieu d'abord, et puis après on fera toutes sortes de débats autour de ça. Mathieu, pour toi, qui ça peut être aussi un des joueurs qui a déjà été donné, hein, mais qui pour toi va être ou peut être le facteur X de demain?
Bah, je vais partir sur un joueur qui était aussi suspendu au match aller, qui n'était pas là, c'est Kylian Mbappé.
et lui, il nous a.
Non, il était en vacances, Mathieu.
Là, il nous a manqué. Bah, quand tu t'auto-proclames, ou quand t'es proclamé, ou quand ta stat de 91 à FIFA 24 te met parmi les plus hauts de ce monde, bah, tu peux pas te permettre de sortir un quart de finale aller de Ligue des Champions comme ça, quand trois jours avant, après c'est le hasard du timing. Hein, t'as dit que c'est un gros match, t'allais pas te cacher sur Téléfoot,
qu'il y a tout ce cinéma autour de lui, que le lendemain de ce piteux match, il était parti vendre sa Swatch au salon de l'horlogerie à Genève. Enfin, il y a tout un décorum autour de lui qui fait que c'est potentiellement son dernier match de Coupe d'Europe avec le PSG et qu'il ne peut pas partir comme ça, quoi. Il y aura toujours, de toute façon, même peu importe comment il partira, sauf s'il soulève la Ligue des Champions, il y aura toujours un sentiment d'inachevé. Mais là, ce match aller, il est presque digne du PSG Manchester de
2019.
Où il était complètement passé à côté. Là, il y a vraiment dans l'attitude, dans ce qu'il fait avec la balle, sans la balle. C'est censé aujourd'hui être ton leader. Il a 25 ans. C'est un joueur affirmé. Il ne peut pas proposer ça. Donc après, moi, je n'entends pas c'est la gestion du jeu de Luis Enrique. Il ne joue pas à son poste. Enfin, je crois que c'est Yacine. J'ai vu par cette vidéo, il avait résumé plein de choses. En gros, il y a trop d'excuses autour de lui à chaque fois, quoi. Il en rigolait, mais il y a la taille du gazon, le vent, le taux d'humidité. C'est jamais assez bien pour lui, en fait. À un moment, mec, t'es soi-disant le meilleur joueur de cette équipe, et bah tu te démerdes avec ce que t'as et tu nous sors le cul des ronces, quoi.
Hier, Adil Rami sur Prime Video a dit que c'est parce qu'il n'était pas assez aimé.
Ouais, tu vois, je peux plus l'entendre, j'en ai marre, en fait.
Est-ce que je peux ajouter juste un truc sur Kylian Mbappé, parce que je rejoins Mathieu et j'ai envie d'ajouter que ce qui est un peu plus inquiétant encore, c'est que c'est pas le premier match où dans l'implication il y est pas, tout simplement, et ça fait plusieurs matchs où on note que Mbappé, bah finalement, bah il est là mais il est pas là. Donc
je pense que c'est un mec perturbé.
Je pense qu'on l'aime pas assez.
Vous voyez un mec perturbé, vous ? Yacine, toi qui as vu visiblement trois fois le match, tu t'aimes bien te faire souffrir, quand même. Franchement, faut le dire.
Je viens de chercher des explications.
Mine de rien, on est obligé de parler de Mbappé. Après, on parlera notamment d'Hakimi, c'est assez intéressant. Mbappé, le comportement sur la fin de première période à être hors-jeu de 6 mètres à chaque action, c'est le peut-être truc numéro 1 qu'il faut corriger pour Barcelone, quoi.
Oui, parce que en fait, le problème, c'est que déjà, ça montre son implication, et ça, c'est problématique. Mais surtout, c'est que quand tu récupères le ballon, tu ne peux pas jouer vite ta transition, puisque tu peux pas donner le ballon à un mec qui est hors-jeu. Donc ça, c'est problématique. La deuxième chose, c'est que ça commence à m'énerver que il a cette qualité malgré tout. Alors peut-être un peu moins cette année, mais sur la vitesse, etc. Et il y a notamment une action en première mi-temps où il est lancé par Asensio.
Début de match, hein.
Ouais, au bout de 8 minutes, je crois. Et au lieu d'aller prendre la profondeur, parce qu'il est en 1 contre 1 avec Arojo, le mec il ralentit et il fixe et il attend que Koundé revienne et il se retrouve à 2 contre 1. Mais en fait, tout ça, c'est des petits trucs qui sont insupportables. Notamment pour lui, parce que déjà c'est sa qualité, parce que ça montre aussi quelque chose de différent. C'est comme si, presque, je vais caricaturer, mais voilà, c'est peut-être trop facile, je vais pousser le ballon et on va encore dire que je suis un tout droit. Donc non, je vais attendre et je vais éliminer 2 joueurs et je vais rentrer et je vais faire ma frappe premier. Mais en fait, j'ai envie de te dire, si tu mets 4 pointus demain, on va pas t'en vouloir, hein. T'en fais pas, hein. Je vois ce que je veux dire.
C'est vrai qu'on prend.
Ouais, moi je prends les 4 points.
Voilà, donc c'est son attitude, elle est pas bonne. Et la dernière chose, c'est que souvent les joueurs, je parle au global, mais ça va le concerner, tu sais, ils se réservent un peu en pensant être plus frais. Mais en fait, plus t'es déconnecté du jeu, plus t'auras du mal en fait à rentrer dans ton match. Tu vois, il y en a qui disent, ouais, je vais pas faire trop de courses parce que je vais me réserver. Mais en fait, il faut être connecté au jeu.
Tu dis, je vais pas me donner à fond sur le premier quart d'heure parce qu'après, je vais être mort. Mais en fait, en te donnant pas à fond, tu rentres jamais dans ta rencontre.
Exactement.
Et donc, t'arrives jamais à avoir ta
plénitude. Et en plus de son attitude, il y a eu ça et je le trouve déconnecté du jeu. Il y a une autre situation en deuxième mi-temps où Zaïre Emery est lancé en profondeur et où Mbappé est complètement à gauche. Et jamais il fait l'appel pour venir proposer une solution, alors qu'il y a un vrai espace pour Zaïre Emery pour mettre le ballon dans le dos de la défense. Et il vient jamais déconnecté. Voilà, il a fait son match tout seul dans son coin.
Ouais. Moi, ce qui m'a frustré aussi par rapport à Mbappé, c'est que il le sort en Ligue 1 quand il est pas très bon. Là, j'aurais aimé qu'il le sorte. Parce que c'était criant qu'il n'était pas dedans.
Match aller de Ligue des Champions, tu le sors à la
80e. En fait, en le sortant pas, tu joues avec le handicap d'avoir un joueur en moins, finalement. Donc, vu que Luis Enrique s'en fout totalement, qu'on dise « Ah, bah, il a sorti Mbappé », j'aurais aimé que là, au match aller de Ligue des Champions, Mbappé n'est pas bon. Pourquoi on le laisse sur le terrain ? Après, Évidemment, ça va faire parler encore plus qu'en Ligue 1. Mais s'il n'est pas bon, pourquoi on le laisse sur le terrain ?
Après, s'il gagne, je ne sais pas si ça fait parler. Hein, mais bon, peut-être pas. Mathieu, sur l'aspect, je reviens sur le facteur X de Julie, qui pour elle est aussi Hakimi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir donc, un match de Ligue des Champions avec Hakimi et Nuno Mendes. On sait que Luis Enrique préfère avoir un des deux latérales qui va aller un peu plus haut. Pour toi, s'il y a un choix entre les deux, qui va prendre un rôle plus défensif, qui va prendre un rôle plus offensif ?
Bah, j'ai l'impression que Nuno il est quand même plus létal offensivement que Achraf. Après, le souci, c'est que c'est deux joueurs qui sont pas très bons défenseurs dans l'âme. C'est plutôt des vrais pistons, des joueurs qui peuvent faire mal à l'adversaire. Et l'avantage de la suppression du but à l'extérieur, si même comme toi, je trouve que c'est dommage parce que tu n'as plus du tout la même vision des matchs, c'est qu'au fond, tu peux prendre un wagon de but demain, tu t'en fous, faut juste en mettre au moins un de plus qu'eux. Et si tu peux en mettre deux, bah là, c'est parfait, on est refait. Mais donc, en fait, il faut envoyer demain. Et avoir deux menaces comme ça qui sont capables de marquer des buts ou de donner des ballons, bah finalement, c'est peut-être mieux que d'avoir Marquinhos, qui n'est pas du tout un spécialiste, Lucas Hernandez, qui n'a pas de vitesse et qui n'est pas non plus un spécialiste du poste. Donc là, au moins, t'as deux éléments qui peuvent apporter du danger, qui peuvent marquer des buts. Et ça peut mettre le Barça dans une situation d'inconfort si tout le monde est connecté, en fait. Mais après, voilà, ça reste aussi le principal souci de demain, c'est qu'il faut que tout le monde soit au diapason et qu'on soit vraiment... dans le même mood et que t'es pas un mec qui fasse son match de son côté, quoi. C'est demain tu t'en sortiras pas s'il y a un type qui veut briller. Il faut que tout le monde ait envie d'aller tabasser du catalan ensemble, quoi.
Alors du catalan barcelonais, hein, parce que le catalan de Gérone, c'est vachement bien. Je préviens juste avant, hein, je le dis comme ça une fois de temps en temps.
Juste pour ajouter un petit truc, ouais. Dans un match où tu dois forcément marquer, est-ce que Luis Enrique, là, il sera pas en mode bon, bah, mes deux pistons, allez-y, offensivement, faites-vous plaisir quand tu dois marquer ouais, finalement.
Il y a là, on s'amuse. Mais
exactement, ça change la donne parce que finalement, alors certes, si t'en prends, bah, du coup, t'es mal barré, mais dans un match où bah, du coup, tu joues ta qualif et tu dois absolument marquer, je pense que là, Luis Enrique, il serait peut-être bien inspiré de laisser ces deux latéraux aller. Aider offensivement, quoi.
Yacine, je sais pas si tu te rappelles du match face à Montpellier. À Montpellier, là-bas, c'était juste avant la trêve internationale. Il y avait déjà, enfin, sur la deuxième période, il y avait Hakimi et Nuno Mendes. Et Hakimi a quasiment fait le troisième central. Il jouait beaucoup plus bas sur cette rencontre-là. C'est un prémisse, à ton avis, ou c'est pour montrer que Luis Enrique peut faire les deux et que ça peut s'adapter, ça peut même changer pendant la rencontre?
Ouais, parce qu'en fait, je pense que le rôle de ce latéral, quand il est dans cette position, c'est surtout, parce que les deux vont vite, en fait, c'est de pouvoir couvrir un peu dans le dos de tout le monde. Et d'ailleurs, Nuno le fait très bien. Mercredi, il rattrape deux situations comme ça en deuxième mi-temps. Oui, c'est parce que bah, faire monter les deux, ça te laisse quand même que deux défenseurs. Maintenant, moi, je suis d'accord avec tout ce qui est dit là, c'est que, en fait, et d'ailleurs, Mathieu l'a dit au tout début, en fait, on en a marre d'avoir des regrets et de se dire « Ah, mais si on s'était lâché, ah, mais franchement, tu sais quoi, quitte à sortir, lâchez tout, laisse les deux monter. Si tu dois prendre des contres, tu prends des contres. Mais rends le match fou et puis il arrive ce qu'il arrive, tu vois. Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que Paris veut presque tout gérer. C'est-à-dire qu'ils veulent jouer haut, mais gérer la profondeur. Mais comme ils peuvent pas gérer la profondeur, t'as un bloc qui descend et t'as trois attaquants, enfin deux attaquants qui pressent. Du coup, ça crée des déséquilibres partout. Allez-y, quoi. Tant pis la profondeur. À un moment, tu vois le match de City contre le Real. T'as presque l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que City a accepté d'avoir
un boulevard derrière.
Ouais, bah tant pis, tu peux pas tout gérer, c'est impossible de tout gérer. Donc, tant pis, alors ils se sont fait ouvrir, hein. Ils ont pris des buts.
Ils ont pris trois.
Hein. Voilà,
pris
mais, trois mais voilà, mais exactement, mais au moins ils se sont donné les moyens.
Et il y a des défenseurs qui marquent, hein. Guardiol, il marque une fois
oui,
de loin.
Parce que ils ont du monde dans la surface, parce qu'ils ont du monde devant le but. Et moi, je crois qu'on aura plus besoin, de toute façon, t'as besoin de gagner. Donc, t'auras plus besoin d'avoir du monde devant le but que d'essayer de te protéger et de rester à 0-0. À 0-0, bah, de toute façon, t'es dehors. Donc,
Mais ça, Mathieu, d'un point de vue cardiaque, un match ping-pong là comme ça, on est mort, là, nous. On va tenir,
c'est le dernier.
rappelle-toi le Real, le PSG Real, là, quand on perd à l'aller 3-1 là-bas et qu'on avait fait un sketch avec ensemble. Ensemble, on va y arriver, machin et tout. Et on a fait un match insipide, il se passait rien, c'était mou et tout. Et ça, c'est des matchs qui me rendent fou. Moi, franchement, demain, s'ils vont à l'abordage, et que tu prends des buts, mais tu vois, c'est un peu comme le match d'hier de Brest, et que bah voilà, tu vas au bout, t'essayes vraiment, tu montres que t'as pas envie de mourir bêtement, ben moi, ça va me rassurer. Mais par contre, si on fait comme d'habitude et qu'on sort en ayant été apathique tout le temps, ça, c'est vraiment un truc que je veux plus voir, en fait. C'est voilà, faites-vous, voilà, allez au fond, et puis on verra, arrêtez de calculer, en fait. Tabasse-les, et puis tu feras les comptes à la fin, quoi.
Bon, alors, du coup, avec tous les facteurs X, là, on commence à avoir des 11 qui se dessinent. Alors, je vous ai demandé de faire des devoirs. Je vous ai demandé de m'envoyer chacun un petit peu votre 11 si vous étiez Luis Enrique, donc si vous étiez comme ça, très confiant, injurieux parfois avec les journalistes. Bon, bref. Mais si vous étiez Luis Enrique et que vous deviez en mettre 11, alors c'est facile. Défensivement, vous mettez les mêmes. Donc déjà, au moins là-dessus, vous êtes d'accord, il y a du Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes. Bon. Ensuite, on va aller chacun à son tour. On va essayer de voir comment ça peut s'orchestrer. Julie, à partir de cette ligne de quatre défenseurs et donc de Donnarumma, personne ne m'a mis Arnaud Tenas. Hein. C'est gentil. à partir de ça, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu mettrais, toi, si t'étais Luis Enrique?
Alors, moi, je mettrais un milieu avec Warren Zaïre-Emery, Ugarte et Vitinha. Ugarte avec l'espoir que sur un match, on retrouve le Ugarte de début de saison. Qui, du coup... Si il se met en mode Ligue des Champions, je me dis que ça peut quand même faire la différence. Tu veux ma ligne?
Ouais, vas-y, avec celle de devant, comme ça.
Et puis, devant, je mettrais Dembélé, Ramos et Mbappé. Parce que Ramos, je pense que face au Barça, un mec un peu chiant qui court pas très vite, mais il peut être très chiant pour une équipe comme le Barça. Je pense que Ramos, après Barcola, entrer en cours de jeu, mais Ramos dans le 11, je pense que ça peut faire des petites étincelles.
Donc dans ton 11, out Lee Kang-in, out Fabian Ruiz, out Marco Asensio. En gros, puisque après il y a Hakimi qui doit aussi forcément re-rentrer devant, et puis Beraldo, bien sûr, parce que Beraldo, on l'a pas dit, mais voilà. avec le retour d'Hakimi, normalement c'est Beraldo qui en fait les frais. Donc ça c'est pour Julie. Mathieu, qu'est-ce que tu nous concoctes, toi, si t'es Luis Enrique?
Bah, comme j'ai dit qu'il faut marquer beaucoup de buts et que t'as pas trop, faut pas que tu réfléchisses. Moi, je pars un peu avec ce qu'il avait mis contre Marseille et Lyon. C'est une sorte de 4-2-4 où au milieu tu mets les deux petits Vitinha et Zaïre Emery. L'avantage, c'est que tu joues pas une équipe de Bundesliga ou de Première Ligue. C'est pas un milieu qui va te mettre beaucoup d'impact physique. Tu vois, Pedri, Franky et Gundogan, même si Gundogan il est assez costaud, c'est pas des mecs qui vont te faire mal physiquement plus que d'autres. Enfin, tu vois, c'est pas Tchouaméni, tout ça, des mecs qui t'auraient massacré. Et devant, je mets Barcola et Dembélé sur les côtés et un duo Mbappé-Ramos ou Colomouani s'il fait deux entraînements exceptionnels et que c'est.
Bah, ça te fait, moi, je vais te demander de trancher, ça te fait 12 joueurs là. C'est Ramos ou
quoi? Je mets Ramos pour un mec de surface. Et puis voilà, tu peux partir avec quatre offensives plus les deux latéraux. Et puis t'as des mecs qui peuvent dézoner, t'as des mecs qui peuvent prendre le côté, qui mettent de la vitesse. Et puis voilà, puis tu vas à l'abordage, quoi. Et je suis d'accord. Après, Lee Kang-in, je trouve qu'il sert à rien, tu le sors. Le mollusque Fabian Ruiz, il sort. Et puis après, t'as pas beaucoup de.
Après, sur le banc, ouais, t'es un peu moins
fan. T'as Colomouani, puis t'as Lee qui peut faire une bonne rentrée comme à la Sociedad.
Mais c'est une chose, tu dois tenir le ballon après. Hein.
Voilà. Mais t'as tellement pas le luxe de réfléchir et de te dire je vais laisser passer une mi-temps. Tu vois, si on arrive à 0-0 à la mi-temps et qu'il ne s'est rien passé, bah, tu as perdu 45 minutes pour rien. Donc à un moment donné, bah, en fait, il faut que dans les 10-15 premières minutes, tu aies eu plein d'occasions et que tu aies montré au gars que tu es venu là pour vendre chèrement ta peau. Donc il faut que tu mettes en gros tous tes joyaux de la couronne sur le terrain et puis tu fais un all-in et tu y vas, quoi.
Donc je rappelle pour Julie, derrière la ligne Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Lucas, Nuno Mendes, on a un milieu à trois avec Ugarte en sentinelle, Warren Zaïre-Emery et Vitinha, et devant Dembélé, Ramos en neuf, Mbappé à gauche. Pour Mathieu, on a la ligne de quatre défenseurs avec Donnarumma, puis deux milieux de terrain, Zaïre-Emery, Vitinha, Barcola à gauche, Dembélé à droite et devant Mbappé et Gonçalo Ramos. Je me tourne vers Yacine. J'ai fini par Yacine parce que je sais qu'il y a une... Voilà. Yacine, comment tu verrais le 11, toi, si t'étais Luis Enrique demain?
Alors, je dis déjà, j'ai longtemps hésité avec un 3-4-3. Mm-hmm. Parce que finalement, à avoir deux joueurs de couloir...
Voilà, et tu mettrais qui en troisième
défenseur?
Danilo en troisième défenseur.
Ouais. Danilo, Marquinhos, Hernandez. Malgré tout, je vais rester sur le 4-3-3 parce que je pense que... Voilà. J'essaye de faire à ma sauce, mais...
pas des dingueries non plus parce que Luis Enrique, on va pas non plus s'inventer.
Pas des dingueries, il a dit.
Non.
attendez, pas des dingueries.
Voilà. Bref, au milieu, donc, je laisse Zaïre Emery, Vitinha, je laisse Ruiz parce que je pense que. Évidemment, en plus, toi, tu connais mon amour pour Fabien Ruiz.
Tu le détestes, hein.
On va pas se mentir.
Je pense qu'entre Mathieu Faure et toi, il y a match.
Mais je le laisse parce qu'en fait, malgré tout, dans très peu, mais quelques fois, dans l'utilisation du ballon, il reste meilleur qu'Ugarte et que tu as besoin d'être plus juste. Alors, c'est pas exceptionnel, mais voilà. D'ailleurs, c'est lui qui fait quand même la passe sur Vitinha et c'est à souligner. Et devant, en fait, je pars avec. Ramos en neuf parce qu'il me faut un neuf. Dembélé à droite et Barcola à gauche. Voilà. Donc je vais être clair, c'est un peu provoque, mais pas que. Parce que.
Mais t'y crois ou pas?
Pas de dinguerie.
Hein. Pas de dinguerie, ouais, il a dit.
Pas de dinguerie. Non, mais en fait, pourquoi? Parce que je pense que pour être bien, cette équipe, elle aura besoin de défendre à 11. Et quoi qu'il arrive, Mbappé fera pas le travail. C'est pas possible. C'est pas en lui.
Il n'y a pas un cas où il veut défendre?
Non, parce que c'est pas en lui. Il le fera peut-être. On le voit une fois ou deux par match. D'ailleurs, dans certains commentaires pendant les matchs, il le fait tellement rarement que quand il le fait, ils en parlent pendant à peu près 9 minutes. Donc voilà. Mais, et parce que je pense que Barcola, même si c'est évidemment que c'est pas le talent d'Mbappé tout ça, mais dans l'attitude, dans le collectif, voilà. La deuxième raison, c'est que cette saison, en termes de collectif, pas en termes de résultats, mais vraiment en termes, alors il y a eu les résultats, mais en termes de collectif, d'attitude, etc. Les deux meilleurs matchs pour moi, c'est Marseille une fois qu'Mbappé est sorti,
l'aller,
et c'est Lille.
Lille au Parc des Princes.
Voilà. Lille, c'est pas le Barça, mais c'est quand même une des bonnes équipes de Ligue 1 cette saison, parce que tout le monde a travaillé, personne. Et la dernière chose, c'est que quand il n'y a pas Mbappé, il y a un respect du jeu qui est différent, notamment de la part de Vitinha, qui cherche moins à jouer avec Mbappé. Puis il n'est pas là, donc en fait, on joue avec les joueurs qui sont disponibles, qui sont libres, et il y a des courses qui ne se font pas qui se font pas quand Mbappé est là. Donc moi je prends le risque et j'ai envie de dire enfin Mbappé il est salarié du club jusqu'à preuve du contraire. Donc puisque Luis Enrique dit que c'est lui qui décide. Donc moi si je me mets à sa place, je suis coach, c'est moi qui décide. Puis Mbappé, si tu as envie de rentrer 30 minutes et de montrer que tu es le patron et que tu fais basculer le match en 30 minutes, tu es le bienvenu. Si tu n'as pas envie, te prends pas la tête, on va se débrouiller autrement et puis on sortira sans toi, c'est bon.
Julie, on prépare l'année prochaine demain ou pas?
Alors déjà, j'ai envie de préciser que tu me reprochais entre gros guillemets de vouloir sortir Mbappé s'il n'était pas bon en Ligue des Champions. Lui, il se permet quand même un 11 sans Kylian Mbappé. Après, imagine Luis Enrique sort Mbappé du 11 demain, je pense, pendant une heure.
Wow.
Ça parle que de ça. On a oublié le match, on a oublié l'enjeu, on a oublié la qualif. Oh, on parle là. Que de ça. Pardon, c'était quoi ta question?
Non, mais savoir si tu trouves ça possible, plausible, et si tu entends peut-être les arguments aussi.
Alors, moi, j'entends les arguments parce que quand on regarde encore une fois son match aller, sans parler des matchs précédents, parce que ça fait quand même un moment qu'on dit que dans l'attitude, Mbappé est pas très bon, ou alors qu'on a l'impression qu'il est inexistant. Franchement, ça s'entend. Parce que quand t'as un joueur qui n'est pas bon, et puis on a beaucoup reproché aux prédécesseurs de Luis Enrique de laisser des mecs sur le terrain parce qu'ils avaient un statut dans le club. Là, Luis Enrique, il se permet de sortir des mecs qui ne sont pas bons. Donc effectivement, s'il n'est pas bon, si tu pars avec un handicap parce que t'as un joueur en moins, moi je trouve que ça s'entend. Après, effectivement, le sortir du 11, je trouve que surtout, encore une fois, quand il prétend au statut de meilleur joueur du monde, quand on sait que c'est probablement, peut-être, j'espère pas, son dernier match, ce serait quand même gros de le sortir du 11. Mais moi, ça ne me choque pas. Si demain, il y a un 11 sans Mbappé, ça ne me choquerait pas.
Tu dirais,
ça me choquerait dans le sens où quand même, il l'a fait. Mais je me dirais, on part à 11.
Mathieu, moi, je suis quand même pas le plus sympa avec Kylian Mbappé sur ses prestations. Je me prends les fans français, anglais aussi. Enfin, anglais.
Espagnol.
C'est pas trop si c'est anglais, mais en tout cas, il parle anglais. Est-ce que tu le vois? Est-ce que toi, dans ton fort intérieur, qui aussi critique les performances parfois de Mbappé, t'as envie de te dire demain, on peut peut-être être meilleur sans lui?
Tu peux être meilleur sans lui, mais j'ai du mal à imaginer de manière rationnelle entamer ce match avec lui sur le banc. Ça veut dire que il fait pas une saison, il a sa saison statistique qui est exceptionnelle, mais après oui, dans le jeu il est pas là, comme l'a dit Yacine, il est tout le temps, je trouve qu'il est tout le temps déconnecté de tout le monde, mais ça reste ta menace la plus importante. Et moi je suis désolé, je suis les Barcelonais, au coup d'envoi, tu vois Kylian Mbappé sur le banc, tu as déjà un but d'avance, tu joues un match retour Ligue des Champions à domicile, tu dis bah tu reprends encore plus confiance quoi. C'est psychologiquement, c'est quand même une menace importante, t'es pas à l'abri qu'ils soient en feu. Je veux dire, moi le match qu'il fait à la Real Sociedad, c'est quand même un gros match. Donc si il est sur un standard équivalent, tu as quand même plus de chances de gagner. Et puis les mecs que tu vas mettre sur le terrain à sa place, que ce soit Ramos ou Colomboigny, t'es quand même 5, 6, 7 catégories en dessous. Donc t'as tellement pas d'outils équivalents en termes de menaces s'il est dans un bon jour, que je trouve ça trop dangereux de partir à l'aventure sans lui. Tu peux le faire contre Lyon dimanche si tu veux, t'as 10 points d'avance. Là c'est un match, si dans 90 minutes t'as pas fait la différence, tu rentres chez toi et c'est fini.
Alors les situations sont bien évidemment différentes, mais je me rappelle il y a 11 ans, le Barça-PSG, où Messi était incertain, Messi était sur le banc.
Quand il a parlé de...
Psychologiquement.
Messi était sur le banc et quand il est parti.
Bon, parce que blessé quand même.
Oui, parce qu'il était blessé. C'est pour
quand
ça
il
que
s'est échauffé,
c'est
ça a tout changé.
C'est pour ça que c'est différent. Mais oui, effectivement, quand il est parti à l'échauffement, dans le stade, c'était pas la même. Et sur le terrain, côté Paris Saint-Germain, c'était pas la même. Là, si t'as Mbappé sur le banc et qu'il commence à partir à s'échauffer à la 60e, alors que, imaginons, le PSG mène 1-0. Donc actuellement, il y a prolongue. Le PSG a le ballon, il y a Mbappé qui part s'échauffer.
Là, bien sûr.
Là, tu climes le stade.
Ah,
là.
Bah ça, c'est sûr. Et même les joueurs, parce que je peux te dire que à mener 1-0, tu te dis qu'est-ce que tu fais maintenant ? Parce que est-ce que tu vas quand même chercher l'égalisation ? Est-ce que faut que tu fermes les espaces ? Bien sûr que ça a un impact. Mais quand je disais, c'est un peu provoque et tout, j'y crois pas parce que malgré tout, je vais aller un peu à l'encontre de Lucien Riquet, même si les entraîneurs aiment bien dire on fait ce qu'on veut et tout. En fait, dans l'attente d'un entraîneur, le statut d'Mbappé, sa carrière, malgré tout, etc., en fait, c'est obligé de rentrer en ligne de compte.
Ça place dans le vestiaire aussi un peu.
Oui,
ou pas,
mais parce que tu te dis quoi ? Tu te dis, en fait, il y a deux choses. La première, tu te dis, bon, malgré tout, c'est ton joueur le plus fort devant, quoi qu'il arrive. Et la deuxième chose, c'est que tu te dis, si tu le mets sur le banc et que tu es éliminé, c'est encore pire, en fait. Et d'ailleurs, les entraîneurs précédents du PSG, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils mettaient les trois ? C'est en gros, même si on perd, mais en gros, j'ai mis les trois. C'est-à-dire que vous pouvez déjà pas me reprocher ça. Et ça aussi, c'est une sécurité. Et quand Julie parlait de tout à l'heure de sortir Mbappé, évidemment que je suis à 1000% d'accord sur le match aller. Le problème, c'est, il y en a deux. C'est un, tu sors Mbappé et tu perds. C'est-à-dire que si tu le sors à 2-2 et que tu perds 3-2, on va dire, mais t'as enlevé ta menace.
Ouais.
Et la deuxième chose, c'est que quand tu décides, ce qu'on disait, on en avait parlé ensemble en plus, le truc, c'est que ces joueurs-là, ils ont dans la tête des gens cette faculté à pouvoir faire basculer un match à n'importe quel moment. Donc, tu te dis toujours, bon, il n'est pas dans un bon jour, mais sur une accélération, bon, sur une
frappe. On se rappelle tous de PSG Real 2022, pardon, avec le but à la dernière minute entre trois joueurs. Et voilà.
Et y a des joueurs comme ça. Tu vois, Di Maria contre Naples qui te sauve la qualif. T'as des joueurs comme ça sur un coup de patte. Le seul truc, c'est que, encore une fois, je le dis souvent, mais sur une centaine de matchs, ça arrive combien de fois ? Deux fois ? Trois fois ? Et voilà, c'est toujours la complexité entre te dire, bon ben, si c'est la bonne, c'est la bonne. C'est rarement la bonne parce que c'est compliqué de faire basculer un match. Mais voilà, t'es toujours entre... Donc Mbappé, il a aussi gagné par son talent, ce statut-là, et c'est compliqué.
Ouais.
Et est-ce que, du coup, Mbappé, il est quand même passé à côté au match aller. Je me dis, si on rentre un peu dans sa tête et qu'il pense d'un point de vue purement personnel, est-ce que lui aussi, il se dira pas, bon, on sent surjouer, essayer de faire le grand sauveur tout seul, voilà. Mais est-ce que lui aussi, dans sa tête, il va pas se mettre un peu... en mode, il faut que je fasse mieux, il faut que je montre plus, il faut que je sois le leader de cette équipe que je suis et que je dois être. Donc je me dis, est-ce qu'il peut passer encore à côté ? C'est pour ça que j'y crois pas non plus à Mbappé sur le banc.
Mathieu, tu voulais réagir ?
Oui, par rapport à ce que disait Yacine sur le fait qu'il puisse basculer un match, même quand il n'est pas bon. Quand on se souvient de sa finale de la Coupe du Monde, où pendant 80 minutes, il est à côté de ses pompes comme toute l'équipe, mais qu'au final, il peut te faire basculer... quand même, c'est peut-être le match le plus important d'un joueur de football comme ça en 10 minutes. Tu sais qu'il est capable de folie et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent le faire. Et puis en plus, là, c'est un match vraiment à élimination directe où c'est pas un match de championnat où à la fin tu vas avoir des jokers ou un match de poule ou un match aller. Là, en gros, à la fin de ce match, mardi, il y a une équipe qui va rentrer chez elle. Donc il faut que tu aies le plus d'atouts en manche le plus longtemps possible. Et quand tu regardes l'effectif, même si c'est une tête de con, même s'il rate son match, même si on a envie de le baffer, que quelque part on sera content quand il sera plus là, et il fait partie de nos atouts. Et à un moment donné, tu as envie de lui dire, mais mec, Déjà que tu n'es pas capable de partir normalement, essaye au moins de terminer ton aventure normalement en ayant fait un match digne de ce que tu as représenté au club, de ce que tu représentes encore, de ton statut, de ce à quoi tu ambitionnes. Voilà, il se doit même une revanche à lui-même. Il ne peut pas partir sur un match similaire à celui qu'il a fait la semaine dernière. C'est pas possible.
Et puis il y a une légende européenne à écrire, mine de rien, parce que la légende européenne de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, comme dit ma grand-mère, c'est pas bézef. Hein. Il y a pas grand-chose. Il y a quelques coups d'éclat, mais il y a pas d'accomplissement majeur. Il y a 2021 qui est la compétition dans laquelle il est leader, notamment contre le Barça. Mais ça s'arrête en demi-finale et donc ça peut. Voilà, on se rappelle aussi des matchs contre Manchester City, etc., etc.
Bon. C'est du niveau de Choupo-Moting, quoi.
Très important, Choupo-Moting en 2020. On va terminer cette émission avec un petit pronostic parce que. On parle, on imagine, on projette, etc. Mais c'est à qu'au moment où je vous demande comment vous voyez la rencontre, est-ce que vous voyez qu'on voit véritablement votre vision. Alors, plus qu'un score, hein, vous pouvez me donner un score aussi exactement, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi la physionomie de match à laquelle vous vous attendez. Quel type de scénario vous voyez potentiellement demain? Tiens, on va commencer avec toi, Yacine.
Moi, je pense que... Et je l'espère, mais je pense aussi que Paris va démarrer le match fort, parce que même s'il n'y a qu'un but d'écart et qu'il n'y a plus les buts à l'extérieur, en fait, si tu prends la tête du match très vite, en fait, tu mets le Barça quand même dans une situation d'inconfort.
S'il y a 1-0 à la 10e minute, c'est bon. Ça démarre là.
Mais bien sûr, parce que l'idée du match du Barça, malgré tout, c'est qu'au coup d'envoi, ils sont qualifiés. Si au bout de 10 minutes, ils ne sont plus qualifiés, il y a 80 minutes à faire, plus dans le même état d'esprit, plus dans la même physionomie, etc. Donc, je pense que Luis Enrique voudra ça. Après, il y a deux choses. C'est que si tu le fais, il faut pas t'arrêter. C'est pas te dire j'ai fait mon retard. Ça y est, maintenant on repart à 0-0 et il y a un temps de gestion.
Un peu le jeu.
Tu vois, par exemple, le quart d'heure de la deuxième mi-temps. Après, c'est un peu typique du PSG, même en Ligue 1. Mais c'est là où tu dois les assommer, en fait. T'as trop pris le dessus. Ils sortent plus, ils respirent plus. T'as des actions qui arrivent dans tous les sens. Parce que
2-1, ça doit faire 3-1. Il y a la barre de Barcola, notamment. Il y a le face à face raté aussi par Barcola.
Ça doit faire 3-1. Et tu vois, il y a d'autres équipes qui te punissent sur ce genre de truc. Bon, on va pas rappeler le fameux Real, le Real PSG, mais il y a des équipes qui se punissent. Nous, on sait pas punir là-dessus. Et on a un problème quand on mène, c'est qu'après, on est toujours toujours l'impression d'être une équipe entre deux. Ben non, quand t'es dans ton temps fort, vas-y, quoi. Et donc, si tu mènes rapidement, il faut leur mettre la tête sous l'eau, parce que là, vraiment, si tu mènes 2-0, bon, déjà, c'est plus le même match, ça, c'est clair, mais tu leur mets tu mets un coup à tout ce qu'ils ont préparé, parce que c'est impossible qu'une équipe s'apprête à aborder un match en se disant, on peut être mené 2-0 au bout de 20 minutes. Ça n'existe pas. Donc, si
surtout
tu fais
que
ça,
t'as déjà un avantage d'un but.
Ben voilà. Donc, je pense qu'il faut attaquer. Je pense que Luis Enrique le fera. Parce que le fameux 2017, il l'a fait. Contre Paris, d'entrée. Alors, il y avait 4-0, évidemment, mais.
Et même le match contre la Real Sociedad, là, il y a un mois et demi, deux mois.
La première demi-heure, hein. Voilà, exactement. C'est de dire, il faut les enfoncer tout de suite. Donc, moi, voilà, c'est le scénario que j'imagine. Maintenant, on verra.
Le score, tu veux pas me dire? Ah, tu sais quoi? Vas-y, je demande les scénarios à tout le monde et après je te garde le score. Ouais. Julie, quel scénario de match tu vois?
Moi, je vois un scénario de match où défensivement, c'est costaud. On retrouve le Didio qu'on connaît, on retrouve une charnière centrale qui est en place, qui ne se fait pas bouffer sur tous les appels ou les courses de Lewandowski. J'espère que défensivement, ça tient la route. Et je pense même que si ça tient la route, on peut ne pas en prendre.
Oula. Ah ouais, d'accord.
Non, parce que moi, je me mets dans la configuration où là, de toute façon, tu es au pied du mur, il faut que tu fasses un match plein à tous les postes. Donc si tout le monde est dans le même état d'esprit, je pense quand même, mais c'est pas parce que c'est mon club, que le PSG est au-dessus du Barça cette saison, en termes de collectif et de talent. Voilà, même si le Barça,
il y a
des grands joueurs, il y a des jeunes joueurs qui sont très bons. Mais quand tu n'as pas le choix, j'ai envie de dire, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et après, offensivement, j'ose espérer que notre meilleur joueur va sortir un très gros match, parce que j'ai du mal à croire qu'il fera deux mauvais matchs en Ligue des Champions, ou du moins qu'il soit un peu en dedans. Donc moi, j'espère, je suis un peu trop optimiste, c'était pas du tout moi d'être comme ça, mais... Je vois un match maîtrisé parce que Luis Enrique aura préalablement fait le boulot dans le vestiaire. Il aura eu le bon discours parce qu'il a déjà été de l'autre côté. Il sait comment ça se passe. Et peut-être, effectivement, que le Barça pourrait se dire, voilà, on a peut-être fait le plus dur au Parc. Et puis voilà, et puis ça joue pas au Camp Nou. Et puis je sais pas. Laisse-moi être optimiste pour une fois dans ma vie.
Pourquoi pas, mais tu sais quoi, je vais te demander.
J'arrête pas de répéter que moi, cette saison, j'avais décidé de ne rien attendre de cette équipe en Ligue des Champions. Et j'ai commencé à me reprendre au jeu là depuis les quarts de finale. Et tu vois, ça me joue des tours parce que au match aller, ça a perdu. Donc tu vois, j'aurais dû rester sur mon dos. J'attends rien.
On n'attend rien, on est tranquille.
Non, j'attends rien. En fait, je pense qu'ils vont se faire bouffer et qu'ils vont gagner. En étant mauvais.
Voilà. Bon, on verra. Je te demanderai ton prono dans quelques instants. Matt, quel scénario tu vois, toi?
Bon, déjà, moi, je suis un peu pessimiste de nature. Ça me permet, comme c'est dit, de me rassurer.
De relativiser un peu.
Bienvenue au club.
Voilà. Bon, ça fait plus de 30 ans que je suis ce club, donc je commence un peu à le connaître. Et si les chiffres te disent que quand t'as perdu ton match aller à la maison, tu te qualifies jamais au retour, c'est pas non plus pour du vent. Et puis, bah, c'est le PSG, donc je vois typiquement le match où au bout de 15 minutes, t'as fait une connerie défensive, t'as pris un but à la con, un pénalty, un 0, un contre son camp, une relance, et que tu te mets dedans et que tu reviens jamais. Quoi. Je le vois gros comme une maison.
Il y a quoi à la télé demain soir?
Il y a Koh-Lanta, tu vas regarder Koh-Lanta ou quoi?
Non, j'ai mon tournoi de tennis qui commence demain, je suis convoqué à 18h en plus, donc je vais être dedans. Non, mais j'ai envie d'exorciser, tu vois, mais j'ai tellement pas confiance en l'ADN de ce club sur les allers-retours comme ça, où t'es vraiment au pied du mur, où à chaque fois quasiment on est passé au travers dans des proportions extrêmement grandes, que je ne trouve aucun argument logique, raisonnable, qui s'appuie sur des faits ou des sentiments qui me donnent confiance en ce match retour. Donc c'est peut-être pour ça qu'il va peut-être se passer un truc, c'est que j'y crois tellement pas, que j'ai tellement l'impression que je vais revoir le même match retour que d'habitude, qu'ils vont peut-être m'étonner. Et comme vous, j'attends rien de cette saison. Moi, j'estime qu'elle est même déjà réussie, parce que c'était une saison de transition, même si on n'a jamais voulu le dire, que l'effectif, il a été remodelé quasiment entièrement, que tu as un coach qui est arrivé avec des nouvelles méthodes et qu'on est redevenu peut-être une équipe collective et qu'on n'est pas à l'abri de redevenir quelque chose de très grand si cet été, tu fais bien les choses. Et que là, c'est presque du bonus d'être en quart de finale de Ligue des Champions. Mais j'ai du mal à croire que cette équipe, elle soit capable de renverser le Barça chez le Barça, un match retour où il faut que tu gagnes. Après, je demande qu'à être surpris. Mais en tout cas, j'y crois pas des masses.
Bon, alors, quel score tu nous donnerais? Vas-y, on commence avec toi.
Moi, je dis 3-1 pour le Barça.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, oui. Ça va être sympa. Ça va être cool, ça va être bien. Voilà, j'espère que ton tournoi, il va être cool. Hein. J'espère au moins que tu vas passer des tours. Hein, parce que...
Il n'y aura pas de regrets, au moins.
Yacine, quel score tu vois?
Moi, je vois un partout.
Un partout?
Ouais.
Ah, donc ça fait élimination, ça.
Ouais.
Allez, un partout en prolongue ou un partout 90
minutes? Non,
un partout, 90 minutes. Julie?
Bon, allez, moi, je vais dire 2-1.
2-1 quoi, Paris ou Barça?
Pour Paris.
2-1 Paris. Donc 2-1 Paris
sur un but.
Attends, 2-1 Paris, ça veut dire que ça va en prolongue.
Tout à fait.
Et après?
En revanche, m'écoutez pas sur les pronos parce que je suis absolument nul.
Non, mais si tu vois 2-1 Paris et que ça va en prolongation, tu vois quoi après?
Ah bah, je vois une qualif de Paris, parce que si tu vas en prolongue, tu prends un petit peu l'ascendant psychologique, non?
Bah, ça dépend. Ils sont chez eux, quoi.
Bah, après, le truc, c'est moi, les stats, je suis d'accord avec Matt, où les stats sont pas en notre faveur, mais du coup...
Elles sont pas en faveur de n'importe quel club français. Hein.
Voilà.
14 fois, un club français en Ligue des Champions a perdu le match aller, zéro qualification. Zéro qualification.
Donc, elles sont pas en notre faveur. Mais j'ai envie de me dire que, bah, des fois, les séries, elles sont faites pour être stoppées. Et puis, pourquoi, pour une fois, ça tournerait pas en notre faveur? Pour conjurer le sort du match retour totalement pourri où on se fait éliminer, je me dis, pourquoi pas cette année?
Ouais.
Ah, j'y crois trop, ça va pas du tout.
C'est elle qui a dit qu'elle allait être pessimiste.
Non, mais il y a que des pessimistes ici, alors j'essaye d'inverser un peu la tendance.
Moi, je suis comme Mathieu, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'y croire non plus parce que, en fait, j'en ai marre, quoi. Tu vois, tous les ans, tu te dis, finalement,
t'es pas. Marre.
Tu vois, c'est insupportable. Donc, tu te dis, écoute, comme tout le monde là, voilà, je pense que cette année, c'était quand même malgré tout. C'est pas la meilleure équipe en termes d'individualité qu'il y a eu depuis 10 ans. C'est pas les meilleurs joueurs du monde. C'est pas, voilà. C'était une année de transition. Écoute, s'il passe, ce sera exceptionnel et t'as pas, voilà. Pas envie de me faire des films.
Bon, allez, moi je suis l'optimiste. Parce que j'ai quand même dit que c'était une émission feel good. Hein. Ouais. J'ai dit que c'était une émission feel good. La dernière, peut-être, émission, on est encore en lice en Europe. Franchement, ce que vous me sortez, c'est pas sympa. Moi, je vois victoire 3-1 du PSG. sais, ça s'arrête.
Tu veux nous donner tes buteurs ou pas?
Tu sais, tu vous rappelez de la remontada là, à la 85e, là, le score qu'il y avait à la 85e, ouais. Ben, voilà, on arrête là, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Il n'y a pas d'arrêt de jeu. Donc
ouais, sauf que là, tu auras 12 minutes d'arrêt de jeu et ouais. Tu feras moins le mal.
Mais il y aura la VAR. Ça, la diff.
Ah, en faveur de qui?
Ben, il y aura la VAR.
Par contre, on voit comment elle est utilisée, je ne suis pas persuadé que.
Voilà pour les pronos. Allez, il est temps de fermer cette émission. Voilà, c'est tout pour ce 100% PSG, la tribune. J'espère que vous avez le plus d'éléments possibles pour aborder cette rencontre retour. J'espère que vous avez apprécié le moment. Vous, les fans du Paris Saint-Germain, vous, les supporters qui sont peut-être sur la route pour Barcelone, parce que je sais qu'il y en a énormément qui nous écoutent en podcast quand ils sont en voyage vers les lieux, de, les destinations de stade, quoi, de match de foot. Donc,
parce qu'il y a 14 heures de quart, là.
Il y en a beaucoup. Merci à Mathieu Faure, merci à Julie Yalap, merci à Yacine Amenep. Je vous rappelle le dispositif exceptionnel de France Bleu Paris. Antenne demain de 18h à minuit, 200% PSG avec Pierre Clément de 18h à 20h avant match complet, puis la grande soirée de 20h à minuit autour de Miguel de Rennes avec bien entendu l'ami Bruno Salomon qui commentera le match de Barcelone. Il est actuellement dans l'avion au moment où on enregistre. Dès qu'il va atterrir, il va directement partir à la conférence de presse de Luis Enrique et ensuite il va voir l'entraînement. Merci à tous. Il est temps de débrancher cette émission. We'll be right back.